Gelijk een schip dat vergaalt in een storm.
Ja.
Dat is met een brand die heel de eerste verdusteren wijd. Vlammen overal.
Ja, ja.
Gelijk bij de volksopstand. Gelijk in de oorlog.
Ja.
Gelijk in de land waar dat de pest ooit gebroken is.
Ja. En dat allemaal tegelijk.
Wow, théâtre musical ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Schubert, de Belgique, de Vieillard, de Lenteur et même peut-être d'Éric Zemmour. Avec Philippe Cassard qui enregistre un nouvel album Schubert, 1828, date de l'année de sa mort en 19 novembre. Schubert encore Schubert pour celui qui lui a consacré un essai et a même théorisé sa relation au cinéma, Manu Farina.
Programme ultime Schubert donc par Philippe Cassard qui en passe par le chant pour l'interpréter au piano. Il jouera un extrait de l'Andantino de la sonate en La mineur en direct du studio 108.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme un film indépendant. On était passé complètement à côté, c'est ça que vous m'avez dit
oui,
dans votre texte.
Oui, il avait été très peu vu, c'est injuste parce que c'est un beau film.
Et qui s'appelle
Blue Ruin.
De qui?
Jérémy Saulnier.
Parfait. 19h35, plateau flamand avec Joss de Pau qui met en scène et en musique Huys, deux textes de Michel de Gelderode réunis par la partition de son compositeur attitré. Le nom de ce compositeur, comme ça je ne vais pas l'écorcher, il s'appelle ?
C'est Jan Kuiken.
Parfait. Lucille Como.
Retour sur le parcours d'un homme de théâtre et de cinéma qui a bouleversé la scène flamande dans les années 70 en se revendiquant de l'absurdisme belge.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec bien sûr le son du jour.
Nous ne nous plaignons pas, nous demandons d'être entendus, car nous avons raison.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Oui, pas tout à fait du jour, mais je
comme d'habitude,
vais montrer, car les intermittents vont revenir sur le devant de la scène. La CGT Spectacle appelle tous les intermittents du spectacle à une journée d'action le 14 novembre, c'est donc vendredi. Dans son communiqué, le syndicat dénonce une situation très grave, puisque je rappelle, il y a une concertation en cours. Non seulement la convention issue de l'accord du 22 mars baisse les droits des chômeurs indemnisés, y compris les artistes et les intermittents, mais nous découvrons que Pôle emploi a publié fin octobre discrètement de nouvelles règles qui durcissent encore son application.
Et on passe tout de suite au dossier du jour et l'on part pour l'émirat d'Abu Dhabi où le musée Guggenheim doit ouvrir l'année prochaine. La semaine dernière, l'équipe du musée a dévoilé une partie de sa collection permanente, mais l'événement a été marqué par l'intervention d'un collectif d'artistes qui dénonce les conditions dans lesquelles ce musée a été construit.
Et oui, on en a peu parlé en France, mais les chantiers des grands musées d'Abu Dhabi et les conditions dans lesquelles les ouvriers les construisent sont pointés du doigt et ce depuis assez longtemps. Les deux musées, donc le Louvre et le Guggenheim, sont construits sur l'île de Sadiyat, ce qui veut dire l'île du bonheur en arabe, et doit voir le jour respectivement en 2015 et 2016. Il nécessite la venue évidemment de beaucoup de travailleurs, des ouvriers quasiment tous immigrés. Et en 2009, l'ONG Human Rights Watch a publié un rapport intitulé ironiquement « L'île du bonheur », Jean-Marie Fardeau de Human Rights Watch France.
Les conditions de travail des ouvriers d'Asie qui viennent aux Émirats, et en particulier sur ces grands chantiers du Louvre et Abu Dhabi et du Guggenheim, sont donc des conditions qui sont caractérisées d'une part par un aspect travail forcé, dans la mesure où souvent ils sont directement liés à un employeur et ne peuvent pas en changer. Souvent on leur confisque leur passeport d'ailleurs, et de plus, beaucoup ont payé dans leur pays d'origine des frais de recrutement à des agences qui facilite leur transfert du Népal, du Bangladesh vers Abu Dhabi, et ces frais de recrutement, parfois 1 000, 2 000 dollars, restent à la charge du travailleur, alors que normalement, aux Émirats, il est interdit de faire payer des frais de recrutement et normalement, les employeurs doivent les rembourser aux ouvriers qui les ont payés au moment de leur départ de leur pays.
Et la sortie de ce rapport a mené à une prise de conscience.
Grosse prise de conscience, notamment en tout premier lieu, chez les artistes qui sont proches du Guggenheim. C'est le cas notamment de Shirin Nechat, Mona Hatoum ou encore de l'artiste libanais Walid Rad qui nous raconte ce qui s'est passé pour lui.
J'ai été contacté en 2009 par le Guggenheim d'Abu Dhabi pour éventuellement faire partie de leur commission artistique et pourquoi pas acheter certaines de mes œuvres pour la collection permanente. Et quelques mois après est sorti le rapport de Human Rights Watch intitulé ironiquement « L'île du bonheur » pour évoquer l'île de Sadia. Et j'ai été choqué et avec moi d'autres artistes qui étaient dans la même situation et nous avons décidé de nous regrouper. On se posait des questions, on était tous ravis que le golf ait enfin un musée, mais on y voyait l'occasion d'en faire un lieu progressiste à tout point de vue. Donc pendant un an, on a discuté avec le Guggenheim pour savoir comment il comptait faire pour améliorer les conditions de travail des ouvriers et s'assurer des conditions dans lesquelles le musée était construit. Et comme au bout d'un an, il n'avait toujours rien fait, nous avons publié une lettre annonçant que nous allions boycotter le musée.
Ils sont alors 43 artistes à lancer un appel au boycott. Mais ils ne s'arrêtent pas là.
Non, ils sont maintenant plus de 150 mobilisés à travers le monde, des artistes du monde arabe mais aussi des Américains, car le collectif de départ de Walid Raad, baptisé Gulf Left Labour, a mené plusieurs campagnes et a créé une émulation extrêmement positive. Écoutez-le.
Nous avons lancé deux campagnes. La première s'appelait 52 semaines, qui a duré un an et s'est achevée en octobre. Chaque semaine, un participant proposait quelque chose pour que l'on n'oublie pas ce problème et pour maintenir la pression sur le Guggenheim, le TDIC et le ministre du Travail de l'Émirat. Cette campagne a inspiré un autre collectif d'artistes baptisé le Gulf Ultra Luxury Fashion, qui a commencé à mener des actions directes dans le musée. Ils ont manifesté lors d'un dîner de gala avec les mécènes et les donateurs pour mettre le sujet sur la table, car nous ne sommes même pas sûrs que tous ces gens soient au courant de ce qu'il se passe. Et maintenant, nous lançons en collaboration avec ce groupe une nouvelle campagne et nous mènerons des actions directes dans ou autour du Guggenheim à Abu Dhabi, mais aussi à New York et ailleurs.
Du côté de l'Émirat, difficile d'obtenir, on l'imagine, un interlocuteur.
Oui, évidemment, j'ai parlé au Guggenheim qui refuse de répondre, qui renvoie vers ce fameux TDIC, l'agence en charge du développement à Abu Dhabi, le Tourism Development and Investment Company, qui lui-même renvoie au Guggenheim, qui renvoie tous les deux en fait au pays dont sont issus les ouvriers immigrés. Les musées ont pourtant un véritable rôle à jouer, selon Jean-Marie Fardeau de l'organisation Human Rights Watch, même s'il reconnaît qu'ils n'ont pas vraiment les coudées franches.
Ces musées ont peu de marge de manœuvre dans la mesure où les contrats qui les lient aux autorités des Émirats, et en particulier à cette agence publique des Émirats qui s'appelle la Société d'investissement et de tourisme, la TDIC. Ces contrats sont des contrats qui donnent très peu de capacité aux fournisseurs d'œuvres d'art, aux fournisseurs de conseils muséographiques et qui sont ceux qui donnent leur nom à ces institutions prestigieuses. Malgré tout, la situation a heureusement un peu évolué depuis 5 ans et aujourd'hui, il existe des codes de conduite que les entreprises sont censées suivre. Pour nous, c'est déjà un premier pas vers un début de transparence et de prise de conscience. Mais il reste encore beaucoup à faire. Les ouvriers sont toujours dépendants de leur employeur totalement. Ils ne peuvent pas en changer, etc., etc. Des conditions qui sont pour nous indignes des valeurs que prétendent incarner des institutions culturelles comme le Louvre ou le Guggenheim.
Voilà, Human Rights Watch qui estime quand même que l'aide des artistes a vraiment été déterminante pour mener à ces petites évolutions et qui souhaiterait d'ailleurs que les artistes français se mobilisent aussi, car le Louvre, évidemment, est français et est concerné par ces problématiques. L'organisation publiera son prochain rapport sur la question en janvier prochain et on en parlera dans le Journal de la Culture.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec le projet de la Tour Triangle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le Conseil de Paris doit se prononcer la semaine prochaine pour savoir si cette tour de 180 mètres qui devait être implantée à Paris, qui a été dessinée par les Suisses Herzog et Demeron, verra le jour ou pas. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne dispose pas de majorité sur ce sujet, mais elle dit pourtant aujourd'hui être déterminée. Si la réponse est négative, je reprendrai le projet, je le retravaillerai jusqu'à ce qu'il convainque, a-t-elle dit aujourd'hui.
Nouvelle découverte dans le plus grand tombeau antique jamais trouvé en Grèce.
Vous en êtes parler aussi, ça se passe à Amphipolis. On a fini par trouver le squelette du défunt enterré dans cette superbe tombe après 3 mois de fouilles. Il s'agit forcément d'une personnalité importante. On a trouvé sur place des sphinx imposants, un sol de mosaïque, des chapiteaux sculptés. Il pourrait s'agir d'un des généraux d'Alexandre, voire de Roxane, sa femme, ou de sa mère, Olympias.
Les éditions du Sous-sol rejoignent les éditions du Seuil.
Ces éditions sont dirigées par Adrien Bosque. Elles publient les revues notamment Feuilleton et Déport. Elles deviennent donc un département des éditions du Seuil. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Seuil, avec une ambition, pérenniser les publications existantes et amplifier la traduction de grands textes sur le journalisme narratif.
Je crois que c'est la revue Desport.
J'ai dit quoi ?
Desport.
Ah mince, pardon. Excusez-moi,
c'est plus maritime.
Je suis.
Impardonnable. Et la dernière ?
Alors la dernière, bon là c'est aussi assez impardonnable, c'est une histoire de Baby River, ou la victoire de l'électro qui devient complètement politiquement correcte et mainstream. Alors vous connaissez peut-être sûrement les rave parties, ces fêtes où l'on danse sur de l'électro, sur de la techno, particulièrement décriées en France dans les années 90, puisqu'elles étaient assez sauvages et souvent synonymes d'usage de drogue. Aujourd'hui, dans certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis, on en fait beaucoup de manière plus encadrée, tellement encadrée que deux New-Yorkais, un couple, ont voulu voulu initier leurs enfants, âgés de 6 et 8 ans, à la fête et à l'électro, et qu'ils ont donc lancé des rave parties pour enfants. Elles ont lieu dans les boîtes les plus chics de New York, la journée, ça tombe bien parce que personne ne se sert des boîtes la journée à New York. Alors, énorme succès. Pas d'alcool, évidemment, plutôt du jus d'orange, pas de fringues folles, mais plein de jeux de lumière fluo et un niveau surtout de décibels très limité. C'est un succès phénoménal, il y en a eu au moins 10. Dernière innovation.
Quand vous dites phénoménal, il y en a eu au moins 10.
Non, mais 10 avec un truc genre 2000 enfants.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est quand même
2000 enfants.
Voilà, et là, carrément, il y a eu des ateliers pédagogiques pour devenir DJ. David Guetta sera le prochain invité de cette prochaine
réunion. Je n'arrive jamais seul.
Les deux fondateurs envisagent même maintenant de créer un festival électronique en famille à New York dès cet été.
Manu, quand est-ce que vous y amenez vos enfants ?
Dès demain.
J'espère bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui ont pu intéresser nos invités ? Philippe Cassard, je voulais y réagir par rapport à la tour.
Ah, moi, je suis pour.
Oui, mais nous aussi ?
Totalement. Je ne comprends pas tous ces blocages. Enfin, on a l'impression que les gens ne voyagent pas et ne voient jamais ce qui se passe autour d'eux. Enfin, la ville, c'est vivant. Je reviens de New York. Là, j'étais à New York. Bon, alors, c'est peut-être pas l'exemple.
Dans une rave
là,
pour enfants ?
Oui, oui, j'y étais, évidemment. Oui, mais comme enfant. Parce que je suis un grand enfant. Ouais. Non, mais bon, c'est peut-être pas l'exemple type à opposer à Paris. Mais, parce que Paris a évidemment...
Une autre histoire.
Mais précisément, la pyramide de Paye, elle n'a pas été faite en 1550, enfin, tout de même. Et justement, le Louvre, on apprécie la beauté du Louvre parce qu'il y a la cour carrée, et puis il y a la pyramide, et puis il y a toute la perspective, la grande arche de la Défense, 1990. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est cette crispation, la ville qui doit sentir le musée, la naphtaline, une ville, c'est vivant. À New York, je n'étais pas allé depuis des années, en 10 ans, je ne sais pas, il y a 250 buildings qui ont été détruits et qui ont été reconstruits différemment.
Josh Depo, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez intervenir ?
Non.
Ça se passe comment pour vous en Belgique au moment où le gouvernement fait des coupes aussi sombres que leur politique dans le budget de la culture ?
On va voir, mais c'est dur pour l'instant, oui. On a un gouvernement de droite, ce qui veut dire qu'il y a moins de culture et moins de femmes au gouvernement. C'est typique, je trouve. Il n'y en a plus que deux.
Vous-même, vous êtes menacé avec votre compagnie, avec le travail que vous menez ?
Je n'ai pas de compagnie, moi je suis un indépendant qui travaille chez des maisons. Mais bon, toutes les maisons où je travaille sont menacées, oui. En plus, tous les théâtres qui présentent notre travail ont moins d'argent aussi. Oui, on le sent justement avec House, le spectacle dont on va parler. C'est un grand spectacle et on le sent. Dans la vente, c'est très dur. Les gens ont peur, oui.
Philippe Cassard, on vous a demandé d'apporter un son, comme à tous nos invités. Et voici ce que vous avez choisi. On a décidé de le mettre dans le journal de la culture parce que ça le concerne.
La frontière empêche de penser. C'est vrai que, sans doute, Voltaire ne pensait pas, Rousseau ne pensait pas.
Attendez, il voyageait beaucoup les deux.
Il voyageait beaucoup.
Et Voltaire, il est en Russie.
Mais il y avait des pays. Ce que je veux dire par là, Aragon ne pensait pas, Balzac ne pensait pas. Tout ça, tous ces gens-là, tous ces gens-là ne pensent pas.
Non
mais parce que ce que je veux dire, c'est que c'est à l'intérieur des frontières qu'on a créé des cultures nationales et qui ont permis de faire émerger des grands hommes.
Aragon de faire un grand poème à la gloire de la GPU.
Mais ça, c'est pas.
Alors il aurait dû avoir une frontière dans sa tête.
La police politique de Staline.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Philippe Cassard.
Ah, je n'en peux plus, moi. C'est maintenant devenu vomitif pour moi, parce que...
D'entendre la voix d'Éric Zemmour.
Ah, je ne peux plus supporter ce roquet, ce petit marquis de la haine, ce monsieur qui n'a qu'un vernis culturel, en fait, que des livres d'histoire comme prétexte à cette pensée. C'est depuis que cet homme hargneux, qui est perclus de ressentiment et qui fait passer sa haine, d'ailleurs, pour une pensée, sa haine des autres pour une pensée, depuis que cet homme a gangréné, en vérité, les esprits et une grande partie de la gente journalistique, il faut quand même le dire, par ses éruptions nauséeuse. Moi, je veux dire que ce que je ressens, c'est que son discours, qu'il présente comme subversif, sa phobie des femmes, sa peur, panique des jeunes, des homosexuels, des arabes et des noirs, son dégoût du temps présent, de la société, une société qui avance sans lui, C'est ce discours-là qui, finalement, petit à petit, devient le politiquement correct, le discours accepté, banalisé, qu'on écoute partout, en long, en large et en travers, du matin au soir. Eh bien, moi, je ne veux pas me résoudre à supporter ces discours-là qui sont mensongers, qui affabulent, qui sont paranoïaques, qui surfent sur les peurs d'un pays effectivement rongé par l'autoflagellation et un pessimisme totalement irrationnel, même s'il y a une très grosse crise économique. Je ne suis pas un bisounours. Mais ces discours-là prépare ouvertement l'arrivée du populisme le plus ringard, le plus hideux, le plus stupide, le plus banal, le plus brutal, avec en oriflamme la haine totale et déclarée de la culture, de la beauté et de l'esprit.
Josh Depo, est-ce qu'il y a un commentaire à ce que l'on vient d'entendre ? J'imagine que c'est ce discours-là aussi qui a préparé ce qui s'est passé notamment en Belgique au niveau des élections.
Oui. Non, ça fait peur, hein, ça fait peur. Tout le monde parle plus fort, tout le monde... Il y a des insultes lancées, j'ai écrit une lettre dans un journal en Belgique pour répondre à un président des entrepreneurs. Il m'a invité pour un lunch, voilà ce qui se passe. Et c'est juste ça, je vais au lunch, il n'y a rien qui se passe, il me montre à ses copains, et c'est tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans la culture. Quand je lui pose des questions, je n'ai pas de réponse. Pour ces gens, c'est un jeu. C'est quelque chose pour le dimanche, pour le week-end. C'est pas une vie. Et ça fait peur.
Le rendez-vous.
Plateau 1928, pas du tout, plateau 1828 avec vous, Philippe Cassard, pianiste qu'on identifie notamment à une fréquentation assidue de deux grandes figures, Debussy et Schubert. Schubert, à qui vous consacrez un album chez Dolce Volta. 1828, c'est le titre que vous avez choisi avec au programme la sonate D959, trois pièces à quatre mains. 1828 parce que c'est l'année de la disparition de Schubert, le 19 novembre, il avait 31 ans. Où est-ce qu'il en est musicalement cette dernière année, une année où vous dites qu'il livre à flot continu une succession de chefs-d'œuvre, dont les Winterreise, impromptu pour piano.
Là, on entend le Lebensstürme, cet allegro un peu unique comme ça, comme un cyclope. Et qu'est-ce qu'on entend ? Un piano orchestral déchaîné, c'est à quatre mains, évidemment, mais alors il repousse tout à fait les limites instrumentales et il annonce par sa forme, par l'ampleur de la vision, par le souffle, et puis par, je dirais, le dramatisme, le côté explosif du piano, il annonce les grandes symphonies à venir de Bruckner, pour ne pas dire Mahler. Enfin, c'est vraiment très, très impressionnant comment cet homme, qui est quand même un homme discret, un homme affable, presque anonyme dans la foule viennoise, à l'ombre de Beethoven, qui est mort l'année d'avant, arrive à exprimer comme ça, par torrent entier, ce romantisme qui va être exacerbé ensuite par Schumann.
Une farine.
Cassard, alors Schubert et vous, c'est une grande histoire. Hein. Vous avez enregistré des impromptus, des sonates. Vous lui avez consacré des dizaines d'émissions sur France Musique, ce qui avait d'ailleurs donné lieu à un coffret. Vous lui avez même consacré un essai en 2008. Mais Schubert arrive assez tôt dans votre parcours, plus particulièrement à Vienne, je pense, hein, à la Hochschule für Musik, où vous étudiez. Qu'est-ce que vous y avez appris ou compris de Schubert en tant que pianiste à ce moment-là à Vienne ?
Oh, à ce moment-là, pas grand-chose, parce que j'ai beaucoup écouté. J'ai peu joué de Schubert, j'ai un peu joué de Schubert, mais je pense que j'étais trop jeune. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour patiner cette musique, pour qu'elle infuse en vous. Parce que justement, ce que j'ai écouté à Vienne et dont j'ai profité des années plus tard, c'est le chant. C'est les leaders. J'ai beaucoup, beaucoup accompagné des chanteurs dans les classes de leaders. Donc j'ai découvert ce répertoire-là et j'ai compris peu à peu que les textes que Schubert mettait en musique, toutes ces poésies magnifiques de Seidel, de Müller, de Meyerhofer, de Schiller et bien d'autres, toutes ces poésies-là, en fait, permettaient à Schubert de parler de lui. Comme c'était un homme très pudique, il il parle de lui, il se met en scène à travers ses poésies où abondent les personnages de Wanderer, de Marcheur, où abondent les paysages de la nature, où la relation de l'homme à la nature, au soleil, aux étoiles, à la lune, etc. Et puis évidemment, la quête d'amour impossible, enfin, c'est le romantisme quand même, pas naissant, mais en tout cas, lui, il va vraiment lui donner ses lettres de noblesse.
Lucille Comeau.
Chose de Pau, vous-même, vous aviez utilisé Schubert, c'était en 2007 pour votre spectacle qui s'appelait Roueux, un spectacle sur des volontaires engagés chez les SS, et vous aviez mis sur scène, enfin plus exactement dans la salle, un chœur d'hommes qui interprétait des leaders de Schubert a cappella. Qu'est-ce que représentait Schubert pour vous à ce moment-là?
Ce que je voulais, c'est texte des SS. Je voulais une confrontation avec le public parce qu'on n'était pas dans la salle, hein, on était tous c'était sur des chaises en groupe avec le public. Et puis il y avait les chanteurs qui se levaient sur leurs chaises et qui chantaient Schubert. Maintenant, les leaders de Schubert, c'est quelque chose qui fait... C'est un autre monde, c'est quelque chose de très chaud, c'est très chaleureux, c'est comme la nature. Et je voulais casser ça par les discours des SS qui viennent expliquer leur choix et qui sont toujours d'accord avec eux-mêmes qu'ils ont fait ce choix. Cette confrontation, c'était très important, c'était très, très dur pour le public aussi. Mais Schubert, c'était idéal pour ça, pour être doux pour un public.
Philippe Cassard.
L'idée de Schubert, il faut quand même rappeler qu'en 15 ans, il en a écrit 650. Hein. 650, c'est donc presque un carnet de voyage, un carnet au jour le jour. Enfin, c'est jusqu'au bout, il écrit des leaders jusqu'au bout. Le pâtre sur le rocher, c'est deux semaines avant sa mort, hein, vraiment. Et donc, d'être toujours dans la voix, je dirais presque avec les deux orthographes, hein, mais dans la voix chantée, avec ses poésies... C'est dire que le piano, le quatre mains, la musique de chambre, tout ça, c'est presque accessoire. Moi, je dis toujours, les leaders de Schubert et les poésies, c'est le soleil chez lui et tout le reste n'est que satellite.
Alors justement, on va revenir sur les quatre mains parce que Schubert, c'est un catalogue de plus de 7 heures de musique pour piano à quatre mains.
Énorme.
Qu'est-ce qu'une telle particularité dans une vie quand même assez brève nous apprend de Schubert, du compositeur et du pianiste?
Ah ben, deux choses qui vont d'ailleurs ensemble. C'est
Philippe
d'abord le culte de l'amitié. Jouer au piano à quatre mains, c'est déjà partager le piano, qui est une chose intime, puisque c'est son instrument, avec l'être qu'on aime le plus. Alors, pas forcément l'être aimé d'amour, mais l'ami pianiste qui va partager le clavier, qui va transpirer avec vous sur le clavier. Alors, il y a un premier stade, le quatre mains, c'est la Gemütlichkeit, la Freundlichkeit, c'est le plaisir de déchiffrer de la musique. Et avec Schubert, il faut être certain que la musique se lisait une fois et pas deux. Une fois qu'on avait lu la musique, qu'on avait jouée pour quelques amis, il passait à autre chose, on ne la rejouait pas. Et puis, il y a le deuxième stade, c'est le travail. C'est-à-dire, quand on est avec Cédric Péchia...
qui joue à quatre mains, donc, sur l'album.
Voilà, qui est mon partenaire de quatre mains pour ce disque, et qui, pour les concerts à venir, parce qu'on va donner beaucoup de concerts, c'est un travail colossal, parce que c'est peut-être très bien d'être au piano à quatre mains, de partager de la musique. On s'aperçoit simplement que c'est totalement contre nature, parce qu'on n'est pas assis à la bonne place, parce qu'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui met la pédale, parce que ma main droite, si je suis en bas, gêne perpétuellement la main gauche de Cédric qui est au-dessus, etc., etc. Le son n'arrive pas de la même manière. Et donc, c'est des heures et des heures de travail pour arriver à un son, à quelque chose dans laquelle Cédric et moi allons se fondre. Un même élan, le même son, la même motricité rythmique, et la même expression, les couleurs, la recherche des couleurs. Et je dirais aussi par la complémentarité de nos personnalités. C'est très important qu'on ne se ressemble pas. Voilà.
Quelle est la particularité de votre piano, si vous en avez un pour vous?
De mon piano, c'est-à-dire?
Oui, de votre piano, de votre instrument.
Ah, chez moi?
Oui.
Il chante. C'est vraiment, c'est un piano merveilleux. C'est un petit Steinway. C'est pas un grand piano de concert. C'est un petit Steinway que je tiens de mon premier professeur de piano et que j'ai entendu quand j'avais 9 ans. Enfin, c'est le piano de mon enfance. Quand on avait un programme prêt, notre professeur nous permettait de le jouer sur ce Steinway qu'il s'était acheté pour ses vieux jours. Il était tout neuf à l'époque, en 70, je vous parle. Et ce piano était cristallin. Quand j'étais presque en larmes quand j'étais petit, que je jouais quelques notes. Il y avait une mécanique qui me terrorisait parce que ce n'était pas du tout la mécanique des pianos droits sur lesquels on travaillait. Et il se trouve qu'il est mort plus tôt que prévu, cet homme, et que sa veuve m'a accepté que je le rachète. Et donc j'ai ce piano depuis une quinzaine d'années. Et c'est vraiment un compagnon parce qu'il a une sonorité sublime. Et voyez, ça fait des années que mon accordeur me dit « mais il faut changer, il faut prendre un plus grand, il faut prendre ceci, il faut prendre cela ». Eh bien moi, je ne veux pas, je ne peux pas m'y résoudre.
Tu parles d'un piano qui chante. Manu Farine.
Philippe Cassard, c'est sur un autre piano qu'on va vous entendre tout de suite, et tout seul. Jouer un extrait de l'Andantino de cette fameuse donc, sonate en la majeure de Schubert, un tempo très triste, hein, comme on va l'entendre, et l'attendre aussi. Philippe Cassard, c'est à vous. Cassard au piano du studio 108 sur France Culture qui interprétait un extrait donc de l'Andantino de la sonate en la majeure de Schubert. Je précise que l'album 1828 est paru sous le label La Dolce Volta et que vous jouerez un programme Schubert le 27 novembre prochain à la salle Gaveau. Andantino, c'est-à-dire un tout petit peu plus lent que l'Andante. Quelle est la principale difficulté à exécuter ce mouvement dont vous dites qu'il faut faire très attention justement à ne pas le jouer trop lentement?
Vous avez tout dit. Sinon, ça devient une espèce de chose expressionniste, larmoyante. C'est le pas du marcheur, de ce Wanderer dont je parle. C'est le début du mouvement. Hein. Je n'ai pas joué jusqu'au bout. Il y a un espèce de typhon monstrueux au milieu de ce mouvement, juste après que j'ai arrêté. Mais là il a encore du cœur au ventre. Et puis, la catastrophe qui va se produire au milieu de mouvement va le rendre exsangue. Et à la fin, c'est vraiment son ensevelissement qui est au programme de la fin du mouvement. Enfin, et là, le pas n'est plus du tout celui où il y a encore un petit peu de décision, où on avance. Et on boite quand même, on entend bien, ça claudique, c'est tout à fait le paysage du Schubert des derniers mois. Enfin, il y a une solitude, une détresse, et on chante toujours. Et puis il y a toujours ce retour en arrière, vous l'avez entendu, quand c'est beaucoup plus doux, les jours heureux avant. Mais on avance quand même.
Dans un long entretien publié chez Capricci sur le piano au cinéma, vous consacriez de longues pages à Schubert et Bergman, Philippe Cassard. Qu'est-ce que le cinéma de Bergman pourrait devoir à Schubert? Qu'est-ce qui le lie fondamentalement à lui?
Chez Bergman, ce qui me touche toujours, ce qui me frappe, c'est d'aller au cœur de la souffrance humaine. Enfin, il y a un côté entomologiste comme ça. Et chez Schubert, on peut lire les pensées à la seconde. Enfin, tout est là, c'est presque un encéphalogramme qu'on voit là, se dérouler pendant la minute 30 où j'ai joué. Enfin, et chez Bergman, il y a ça dans la manière de filmer des visages dans Persona, par exemple, ou dans Le Silence, ou dans Crier chuchotement, enfin, ces visages de près, la rossité des voix, le râle, la respiration, parce qu'on est malade, on voit pratiquement la tempe, enfin, le sang battre le pouls, enfin, c'est cette capacité de saisir, la souffrance intérieure, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang chez Bergman, mais le sang... Voilà, le sang est en piteux état à l'intérieur.
Dernière question, Manou.
Vous avez beaucoup parlé de voix comme clé de compréhension de Schubert, y compris pour ce dernier enregistrement, Philippe Cassard. Vous dites même que ce qui sauve l'interprète, c'est de penser au chant quand vous jouez, c'est-à-dire donc au chant schubertien. Ça le sauve de quoi ?
Ah ben de jouer du piano. Parce que Schubert, il faut oublier le jeu clé en main. Je veux dire, on ne peut pas jouer Schubert si on adapte, par exemple, un format beethovenien. Ce n'est pas possible. C'est une musique qui est vraiment contaminée, au sens positif, bien sûr, par la vocalité, par la respiration du chant, par les désinences, le phrasé, la couleur qu'on met sur les mots. Et tout ça se retrouve. On peut mettre des mots sur ce que je viens de jouer. Et donc, si on a un jeu comme ça, bien, bien formel, tout adapté, ça marche pas. Ça ne marche pas.
Le rendez-vous, la chronique.
Philippe Cassard et Jos de Pau, on vous retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne, comme chaque mercredi. Et ce soir, à son programme, un film indépendant américain. On était passé complètement à côté.
Ouais, c'est un film qui avait été qui s'appelle Blue Ruin, pas facile à prononcer.
Ouais, déjà la première fois, vous aviez
Blue Ruin de Jérémy Saulnier. C'est un film qui avait été montré à Cannes en 2013, qui avait mis presque un an à trouver le chemin de la distribution française, qui est sorti début juillet 2014, et qui, malgré quelques bonnes critiques, n'avait pas vraiment été très bien exposé et peu de spectateurs l'avaient vu. Et là, il sort en DVD chez Wildchild. Et c'est un film vraiment assez étonnant, très original, assez fort. C'est le second film de ce réalisateur, Jérémy Saulnier. Et le premier, qui date de 2007, était déjà, son pitch était assez incroyable. Ça racontait l'histoire d'étudiants des Beaux-Arts aux États-Unis qui, pour une fête d'Halloween, décidaient d'inviter un inconnu, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, mais avec comme projet de l'assassiner.
Et de faire Murder Party.
Ça s'appelait Murder Party, et de faire de cet assassinat un geste artistique, ce qui évoque évidemment le pitch d'un classique de l'histoire du cinéma, qui est La Corde de Hitchcock, et c'était une farce extrêmement macabre. Et dans ce second film, on retrouve un peu la morbidité qui était déjà déployée dans ce premier film, puisque ça raconte l'histoire d'une vengeance qui va entraîner la décimation de deux familles presque dans leur intégralité. Donc, contrairement à Bergman, c'est un film où il y a beaucoup de sang. Alors le début du film est vraiment stupéfiant. Ça commence, on voit un type américain qui a une énorme barbe, qui ressemble vraiment à un hipster. Il prend un bain dans une salle de bain, il se prélasse. Et tout à coup, on entend le bruit d'une porte qui claque, comme si quelqu'un entrait dans la maison. Et là, il sursaute, il se lève, il est à poil, il prend ses affaires qui sont dans la salle de bain, il saute par la fenêtre et il se rhabille à toute allure dans le jardin. Et là, on comprend qu'en fait, il n'était pas chez lui. Et on comprend que cette barbe, ce n'était pas du tout la barbe d'un hipster, mais la barbe d'un SDF, de quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe et qui, du coup, pénètre chez les gens, soit lorsqu'il a faim pour utiliser leur cuisine, quand il n'y a personne dans la maison, soit quand il est trop sale pour se laver. Et donc cet homme, il s'appelle Dwight, et on comprend qu'il est très très désocialisé, et il vit dans une voiture qui est sa Pontiac, qui est bleue, et qui est la ruine bleue du titre. Alors on pense au départ que ça va être une chronique un peu sociale sur cette désocialisation, sauf qu'il se produit quelque chose qui va bouleverser sa vie. Il apprend que l'homme qui, lorsqu'il était petit, avait assassiné ses deux parents, va être libéré de prison. Et tout à coup, ça lui est insupportable. Il décide de l'assassiner. Alors là, le film bascule. On est dans un registre un peu proche des frères Cohen. Il va se mettre à poursuivre ce prisonnier libéré pour le tuer. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et que les meurtres vont s'enchaîner. Alors le film, très très vite, en fait, ce qui est fort, ce n'est pas tellement ce qu'il raconte. Qui est quand même
déjà assez... quand même assez
c'est
fort.
C'est stupéfiant. Mais on est surtout frappé par... une sorte de climat qu'instaure le film et par les qualités atmosphériques mises en place par la mise en scène. Il y a vraiment une vision de l'Amérique qui est vraiment terrible et assez terrorisante. Alors le film est presque muet, il y a très très peu de paroles, il y a du son, il y a un espèce de son vrombissant, comme une espèce de murmure très très angoissant. Et on a l'impression que toute une Amérique est vide, engourdie, que c'est un pays frappé par une léthargie terrible, et comme si on était dans une ville de zombies. Enfin, c'est vraiment une Amérique de morts-vivants, et le film réussit à imposer cette vision de façon très très frappante, et il parle vraiment avec ces faits divers criminels terribles qui ont défrayé la chronique, comme Aurora. C'est vraiment un pays où le corps social est tellement démembré que chacun est potentiellement soit un SDF, soit un serial killer, soit les deux, et donc c'est vraiment un film comme ça de vision très 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 forte. Et ce que dit le film aussi en creux, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très vif dans le jeune cinéma indépendant américain contemporain, à la suite de cinéastes auxquels on pense, comme Jeff Nichols qui avait fait Mud, ou comme Kelly Reichardt. Il y a vraiment toute une scène indé extrêmement créative et qui a vraiment une vision très angoissante, mais très très forte, et des moyens expressifs vraiment frappants pour raconter cette Amérique.
Pourquoi avoir choisi la couleur bleue, en fait, de cette Pontiac, en quoi elle serait une métaphore d'autre chose?
Je pense que ça renvoie, en fait, à la bannière américaine, au bleu du drapeau américain, et que cette ruine, en fait, c'est l'Amérique.
Le rendez-vous.
Kurtz. Dis de Kurtz. C'est Kurtz-Glocke. Ding dong, ding dong, ding dong.
Plateau concert dramatique avec vous, Joss de Pau, acteur et metteur en scène belge, un parcours qui commence au milieu des années 70 à Bruxelles, à la fois au théâtre et au cinéma. Vous êtes en tournée en France avec votre dernière création créée cet été au Festival d'Avignon, Huys, un spectacle composé de deux textes de Michel de Gueldereau, d'un auteur belge du début du XXe siècle. Alors le premier texte, c'est Le Cavalier Bizarre. Six vieillards sont dans un hospice et l'un d'entre eux, c'est vous qui le jouez, voit la mort arriver au galop, on dirait du Bergman, mais chacun craint qu'elle ne vienne pour lui. Lucille.
Le second texte s'appelle « Les femmes au tombeau ». Des femmes se retrouvent dans une maison le lendemain de la crucifixion et se disputent, même violemment, l'amour du Christ.
Et c'est la musique du compositeur, dont je vous laisse redire le nom,
Jan Keuken,
qui fait le lien entre les deux pièces. À ce sujet, je sais que vous définissez certains de vos précédents spectacles comme des concerts dramatiques. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme?
Mais ce que je veux, c'est quand je travaille avec des musiciens ou avec des compositeurs, que je veux que leur musique prenne une place à côté des acteurs, pas derrière, pas un soundscape ou quoi que ce soit, mais que la musique est présente. De préférence, je travaille aussi avec des musiciens live sur scène.
Ici, en direct, ouais.
Bon, ici, on a enregistré avec tout un orchestre. On n'avait pas l'argent pour les amener avec nous en tournée. Mais quand c'est live, je veux que les musiciens soient avec moi sur scène et qui font partie du spectacle tel quel, quoi.
Et par exemple, si vous aviez dû avoir cet orchestre, vous l'auriez mis où sur la scène?
Sur scène.
Sur scène.
Bon, pas dans la fosse, non.
Lucille.
Philippe Cassard, je crois que vous aviez vu un spectacle de Joss de Pau où, pour le coup, la musique était en live.
Ah oui, avec un trio et un pianiste extraordinaire, An Old Monk, qui était un regard un peu sur la vieillesse, sur les vieux jours, avec à la fois beaucoup de mordant, et beaucoup de poésie, de tendresse, mais impitoyable, c'est le mot que je vous disais tout à l'heure. Enfin, il y avait un côté d'une lucidité, ça me plaisait beaucoup. Je vous connaissais évidemment de votre association il y a quelques années maintenant, avec Anna-Thérèse de Kersmacher.
La chorégraphe flamande.
C'était le seul spectacle que j'ai vu de vous, mais ça m'a donné tellement envie de voir celui dont vous parlez là ce soir.
On va parler de cette association tout à l'heure. Je rappelle que le spectacle dont vous parlez tout de suite, Philippe Cassard, sera visible, je crois, au théâtre de Malakoff, hein, vendredi et samedi prochain. Vous dites, Joss de Pon, que le langage des musiciens est moins sali par la vie quotidienne que le langage littéraire, c'est-à-dire?
Mais on vient de l'entendre là. Hein,
tout à l'heure avec Philippe Cassard au piano.
Oui, j'envie les musiciens parce que Il y a le côté abstrait de la musique. C'est pas des mots. Nous, on utilise les mots. Les mots que j'utilise sur scène sont utilisés dans la rue chaque jour. On les utilise et j'ai l'impression que de temps en temps on les salit ou on les change ou on les. C'est pour ça que j'aime tellement bien travailler avec les musiciens sur scène parce que là j'ai l'impression que je peux laisser vivre les mots et qu'ils défendent eux-mêmes, quoi, que je peux plutôt me concentrer de me lier à la musique, à la cadenza, au rythme, à la tonalité, et que les mots peuvent m'échapper, que je ne dois pas appuyer sur les mots, les contrôler ou les maîtriser trop.
Pour qu'on comprenne un peu la nature de votre théâtre, tout à l'heure, Philippe Cassard, vous faisiez allusion au travail que vous aviez mené en 1977 avec Anne-Thérèse Kersmaeker. Vous aviez fondé un collectif qui menait surtout des actions extérieures dans la ville. Qu'est-ce qu'il fallait défendre à cette époque, dans les années 70, début des années 80, en Belgique?
Mais là, il y avait un théâtre qui était... Les théâtres, les directeurs de théâtre allaient à Londres ou à Paris. Ils allaient voir où il y avait des queues. Et cette pièce-là était achetée, était jouée, même dans la même mise en scène qu'à Londres ou à Paris, à Bruxelles. On n'avait pas trop envie de ça. Et puis on a commencé à jouer dans la rue et de développer un langage qui était... Notre langage qui
c'est-à-dire
oui qui parlait de nous-mêmes qui parlait qui, on n'avait plus envie à ce moment-là, ça nous est revenu, mais à ce moment-là on n'avait pas envie de jouer Shakespeare ou Tchekhov ou Molière ou Anouilh ou quoi que ce soit. On avait envie de raconter ce que nous on était en train de vivre. Et puis voilà, on a fait des actions, par exemple en automne, c'est l'automne maintenant, en automne on allait coller les feuilles tombées de nouveau à l'arbre, quoi. Toute la journée, on voulait qu'ils restaient là. Et il y avait un public pour cela. Ils restaient avec nous toute la journée. Ils nous amenaient à manger et tout. Mais on ne voulait pas que les feuilles tombaient.
Ah, c'est magnifique, on dirait presque une performance de Gina Pan.
C'était un peu ça, oui.
Alors, le spectacle La Josse de Peau est constitué de deux textes de Michel de Gueldérod, Le Cavalier Bizarre et Les Femmes au Tombeau, que vous avez retravaillé, les deux textes. Comment est-ce que vous avez pensé le lien entre les deux?
C'est toujours. Ouais. Écoute, on peut toujours expliquer tout après.
Oui, après, a posteriori.
Mais... De Gueldérod écrit souvent, il a beaucoup écrit pour des marionnettes aussi. Des spectacles très courts, lui il appelle ça des pochades. Et voilà, on ne peut pas remplir toute une soirée avec une pièce de Gueldérod, rarement. Alors j'en avais besoin de deux textes. Et puis, Le Cavalier Bizarre, j'aimais parce que ça parlait de la mort d'une manière qui est très près de. Ansor, le peintre flamand qui permet que la peinture flamande vraiment est là-dedans dans cette pièce. Et puis quand j'ai lu ce texte, à la fin la mort prend un enfant, et puis je me suis imaginé que cet enfant c'était le Christ nouveau-né, et je l'ai apporté immédiatement à la croix dans la deuxième partie.
Avec les femmes au tombeau.
Voilà, avec les femmes au tombeau. C'est un lien, c'est un peu forcé, mais...
Mais ça marche.
Mais ça marche.
Vous jouez vous-même dans la première partie du spectacle et vous êtes entouré à ce moment-là de comédiens amateurs. Et dans la deuxième partie, toutes les comédiennes sont des professionnels. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce premier texte qui rendait nécessaire ce choix de comédien non professionnel, Joss de Pauw?
Mais pour commencer, je voulais être encore une fois le plus jeune.
Moi, ça va devenir de plus en plus difficile pour nous,
ouais,
tous. Il y a un moment donné où c'est plus
possible. Mais ici, ça a marché.
Encore une fois.
Je les ai cherchés dans des théâtres amateurs. C'était très difficile parce que le texte de Gueldérod, c'est pas des grands rôles. C'est très, très difficile pour inviter des acteurs professionnels d'un certain âge pour venir jouer avec moi. C'est pas assez. Tandis que les amateurs, ils aiment tellement jouer, et je pouvais les enthousiasmer tellement que j'ai travaillé avec eux, ça m'a fait, c'était un grand plaisir. En plus, on allait jouer le spectacle à Avignon, pour eux aussi, c'était un peu le rêve aussi d'être à Avignon avec un spectacle. Voilà, là j'ai commencé avec eux. Pour la deuxième partie, j'avais besoin des femmes, des actrices professionnelles, parce que là, le jeu est quand même plus compliqué et plus faut avoir plus de maîtrise. Oui.
Vous aviez des souvenirs de sa collaboration avec Anne-Thérèse Kersmaeker?
Non,
juste entendu parler de.
C'est pour ça que je suis allé, comme j'étais deux jours à Avignon, j'y suis allé, j'ai vu ce nom, j'ai dit je veux absolument découvrir, mais parce que m'était revenu en souvenir sa collaboration avec de Kersmacher, mais j'avais, non, je n'avais jamais vu. Malheureusement, parce que là, ce qu'il dit sur les feuilles des arbres, alors ça, j'aurais rêvé, de voir, j'aurais rêvé d'y être, d'en être, d'être là.
On parlait de musique, Joss de Pol, il y a une scène qui est saisissante dans la première pièce, c'est celle de la danse des vieillards, qui sont soulagés parce que justement, ils ont appris que la mort ne venait pas les chercher eux. On l'écoute. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment s'est imposée cette forme de la valse pour la danse?
Mais Jan Keuken a commencé à composer une année avant qu'on a fait le spectacle. Et bon, on se voyait régulièrement parce que moi, entre-temps, j'étais en train de m'imaginer la mise en scène de tout ce spectacle. Et bon, on s'est inspiré des deux côtés. Hein, mais à chaque fois qu'il avait une idée, il me racontait, il jouait au piano, et puis on en discutait. Et à un certain moment, je voulais que dans la partie des hommes, les femmes viennent comme dans un rêve. Et là, je trouvais que j'avais besoin d'une valse, et d'une valse même très, très touchante, je voulais. Parce que c'est un peu contre la nature de Jan Keuken d'écrire une musique pareille. C'est...
Vous-même, vous êtes musicien ?
Pardon ?
Vous-même, vous êtes musicien ?
Non. Je suis toujours très content quand mes frères jazzman disent que je suis musicien. Ça me flatte, mais je ne suis pas. Non. J'ai un saxophone et les voisins
s'en plaignent.
Sont tristes.
Vous avez dirigé au début des années 2000 le théâtre de Bruges, que vous avez révolutionné, c'est ce qu'on peut lire vraiment partout dans la presse, au risque de perdre à l'époque tous vos abonnés. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, Joss de Pol ? Quel est le théâtre que vous avez défendu à cette époque-là pour que les abonnés s'enfuient ?
Mais c'est Bruges, c'est une ville de province. Hein, là, j'ai compris aussi, c'est pas très malin d'essayer de faire ça. Là-bas. Les gens ont droit de leur théâtre. Mais bon, j'étais jeune et je voulais mon théâtre à Bruges. J'ai invité des gens qui... que je trouvais intéressant et qui était un peu raide, qui était un peu fallait apprendre comme public aussi, fallait être assez ouvert et je crois que j'ai brusqué la chose un peu.
Qui étaient ces gens que vous avez invités? Quels étaient les artistes qui représentaient ce mouvement?
Par exemple, Jan de Kort, qui est
qui a beaucoup travaillé avec Anne-Thérèse de Kersmaeker, qui Eugénie signe sa scénographie souvent.
Oui, qui travaille encore, qui fait des très très beaux spectacles, mais qui a petit à petit un fan club qui vient toujours quand Jan fait quelque chose, mais c'est pas un théâtre évident, c'est un théâtre qui est difficile à digérer parfois.
Voilà. Quel est le théâtre que vous regardez, vous, Philippe Cassard? Tout
très divers, oui. Je peux pas donner des noms, mais je peux aller aussi bien à la Colline, à l'Odéon, au Français quand il y a une pièce qui m'intéresse, ou un acteur, disons, qui m'intéresse, un Roland Bertin, je me souviens. J'ai pas d'exclusive ni de préférence particulière, mais, disons, un théâtre qui m'enrichisse, qui m'apporte quelque chose, oui.
Lucille.
Comme tous les jours, donc on demande à nos invités d'apporter un son qui les a marqués. Et vous, Joss de Pol, vous avez choisi ça. Identification de ce son, Joss de Pol.
Pardon ?
Qu'est-ce que c'est, ce qu'on écoute ?
C'est, euh, cette musique de Don Cherry et Ed Blackwell, de leur CD El Corazon. Je l'ai choisi parce que c'est une musique très simple. Et ces deux immenses musiciens donnent tout leur talent à cette musique très simple, sans la gâcher, sans mettre leur talent dans l'étalage. Don Cherry joue mélodica, mais c'est presque un jouet, c'est plutôt un jouet qu'un instrument. Ed Blackwell joue sur un tambour, mais ça se complique de plus en plus. Mais jamais c'est un étalage, toujours il reste cette petite musique très simple qui... j'apprécie beaucoup que des gens comme ça comprennent que cette petite musique ne peut pas être utilisée pour eux. C'est eux qui sont utilisés pour la petite musique.
Pourquoi avoir mis la lenteur au centre de votre dispositif théâtral, Joss de Pau?
Parce que tout me va trop vite. Vous parlez trop vite aussi.
C'est la première fois qu'on nous le dit.
En automne, on allait coller les feuilles tombées de nouveau à l'arbre. Toute la journée. Voilà.
C'est le romantisme quand même, pas naissant, mais en tout cas, lui, il va vraiment lui donner ses lettres de noblesse.
Merci à nos invités. Philippe Cassard, l'album 1828 apparu sous le label La Dolce Volta. Et je rappelle que vous serez en concert le 27 novembre à la Salle Gaveau à Paris pour un récital Schubert. Et que le 20 novembre, on pourra vous écouter dans la 400e émission Note de traducteur, 6 décembre, sur France Musique. Joss de Pau, 8, est en tournée en France du 20 au 22 à la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq, les 28 et 29 au Maillon de Strasbourg et votre précédent spectacle. Et ce sera présenté vendredi et samedi prochain au Théâtre 71 de Malakoff. Et le titre en était Arnold Monk. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Turner, sir.
Will everything be to your satisfaction, Mr. Turner?
It is indeed, Mr. President.
Good morning, Turner.
Mr. Turner.
Good morning, Mr. Turner.
Demain, peinture, cinéma et théâtre avec Mike Lee et Jacques Weber. La des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Spes, chronique cinéma, Jean-Marc Lalanne. À la prise de son, Élise Le et Léa Le Foll. Et à la réalisation, Thomas Beau.